Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission Polar, la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Bonsoir à tous nos auditeurs. Des livres qui ont beaucoup retenu notre attention, cette émission. Et ce n'est pas courant, Jacques, tu vas commencer par nous parler d'un livre, d'un roman qui est sorti chez un nouvel éditeur. Une nouvelle édition, c'est pas si fréquent que ça.
En tous les cas, nouvel éditeur pour notre Ronde Noire. En fait, c'est la maison d'édition s'appelle Édition Rue de l'Échiquier. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les ouvrages sur l'écologie, dans un sens assez large du terme. Mais en fait, il publie de la fiction que depuis fin 2018, donc un peu plus d'un an. Et ce roman dont nous allons parler, qui est un roman de James McLaughlin, qui n'est pas, je précise, le frère du guitariste John, c'est leur premier roman noir. Il s'appelle « Dans la gueule de l'ours » et il est traduit par Brice Mathieuson, aux éditions Rue de l'Échiquier.
Voilà, c'est donc leur premier roman noir.
Au début du récit, on découvre Rice Moore aux prises avec un immense essaim d'abeilles qui est incrusté derrière les murs de bois d'un bungalow. Ce bungalow se situe dans une réserve naturelle privée de 7000 arpents, dont Rice Moore est le gardien.
Arpente, tu as cherché, puisque c'est une surface,
une unité de surface
américaine.
Américaine, qui est usitée en France, mais qui n'est pas la même qu'aux États-Unis.
Ouais. On peut arpenter, par contre, mais voilà, ça me rappelle le titre d'un excellent roman d'Erskine Caldwell qui s'appelait Le petit arpent du bon Dieu.
Voilà.
Un grand roman noir.
Et ben là, il y en a 7000. Alors, pour la conversion, ben, vous voyez votre moteur de recherche préféré qui vous traduira ça. Le prologue du roman, en fait avant l'essaim d'abeilles, là, nous laisse entendre que Rice avait eu des ennuis, quelque temps auparavant, avec la justice. Ce job de garde forestier dans une réserve des Appalaches, comme on dit.
Ouais, je crois que c'est plutôt comme ça.
Semble donc être une bonne planque pour lui. Jusqu'au jour, enfin c'est un soir, où il découvre, dans sa réserve donc, dont il est le gardien, le cadavre mutilé d'un ours. Évidemment, c'est un peu son boulot, il va chercher à savoir qui a fait ça et pourquoi. Et finit la petite vie tranquille dans la montagne, à regarder les oiseaux dans le ciel. Évidemment, si dans cette région il y a des ours, des abeilles, des serpents, des rapaces qui fréquentent les environs, c'est bien évidemment l'homme qui est le plus dangereux. Entre chasseurs qui pensent que la nature est à eux, et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et les différents trafiquants de morceaux d'ours, la partie ne va pas être bien facile pour Rice.
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme intérêt à trafiquer, même pas des ours, mais des morceaux d'ours? C'est même pas à la peau, c'est pas pour la peau là.
Non, non, parce qu'en fait on les trouve un peu éviscérés et puis mutilés. Donc en fait, eh ben, c'est un des effets en quelque sorte de la mondialisation du crime. Comme il n'y a plus assez d'ours en Chine, et qu'il semblerait que les pattes d'ours et la vésicule biliaire a des vertus plus diverses, certaines sexuelles, d'autres bénéfiques pour la santé. Donc il s'est créé un gros trafic d'ours, enfin de parties d'ours entre les États-Unis et l'Asie du Sud-Est. Heureusement, C. Rice, qui est au départ une formation scientifique, il a aussi fréquenté les cartels mexicains, et donc il sait à la fois encaisser les coups et les rendre pour se défendre. Dans ce roman, il va y avoir deux femmes dans la vie de Rice. April et Sarah. Elles vont s'immiscer dans le récit et effectivement dans la vie de Rice. Elles le rendront plus humain et on va dire moins ours.
Ah, puisque c'est joli.
De toute façon, les ours, comme on vient de le dire, il y en a. Il y en a des vrais, des gros à portée de main ou plutôt à portée de carreaux d'arbalète puisque c'est là l'arme qui est pas mal utilisée pour les chasser. C'est un avantage immense.
Ça fait pas de bruit.
C'est que ça fait pas de bruit. Le roman va constamment osciller entre nature writing et thriller, militantisme, voire activisme écolo, et roman d'action musclée. La nature peut être violente, mais en fait, elle n'est jamais ni mauvaise ni avide.
Ce qui n'est pas le cas de l'être humain.
Exactement. Quand la nature est rapace dans ce roman, eh ben, c'est un vautour, tout simplement. Un roman qui rappelle un peu ceux de Jim Harrison ou de Craig Johnson, ou les premiers CG Box, où il y avait une immersion totale du ranger dans la nature, dans la forêt, dans la neige.
Oui, son personnage principal, c'était bien un garde forestier aussi.
Exactement, c'est ça. Et donc là, il y a des scènes de bivouac improvisées, et il y a aussi, ça c'était aussi avec, dans ces G-Box, et d'ailleurs dans Craig Johnson, l'importance des ou du chien.
Oui, puisque Craig Johnson, il y a le chien, voilà, qui n'a pas de nom.
Là, il y en a plusieurs, mais il y en aura surtout un, mais enfin, je ne vais pas tout vous le dire. James McLaughlin est aussi photographe, et cela se ressent dans son écriture. Il pense à la lumière, puis il construit son cadre, place ses éléments, et nous retranscrit sa vision, vision intérieure ou vision d'écrivain. Je vais vous lire un petit peu comment il parle des oiseaux et du ciel. Il imagina le soleil fonçant à travers le ciel, laissant derrière lui un sillage enflammé comme une gigantesque comète sans que personne ne le remarque. Dans la vallée, l'ombre de la montagne avançait inexorablement vers la Blue Ridge, répandant sa teinte bleu nuit qui oblitérait le quadrillage géométrique des terres cultivées et des parcelles boisées. Une corneille invisible appela dans les bois l'ensemble des notes couplées. Quao, kao, kao, kao. Enfin, ou quelque chose, ou quelque chose
pas,
comme ça.
Tu n'imites pas très bien la corde, j'ai même dit.
Ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu. Ouais. Comme une espèce de code. Au-dessus du chalet, les martinets ramoneurs en résidence tissaient une spirale étourdissante et piailleuse. Il y en avait bien une centaine qui passaient la nuit dans le gros conduit en pierre. Les jeunes martinets volaient désormais avec vigueur. Ces oiseaux partiraient bientôt pour leur migration vers l'hémisphère opposé. Ils tournoyaient de plus en plus vite. Rice imagina qu'ils engrangeaient de la force centrifuge suffisamment pour les propulser, enfin, à 10 000 km de là, vers le sud et le bassin de l'Amazone. Mais l'auteur sait aussi, avec une certaine virtuosité, je dirais, en plus de sa description de la nature, nous amener, par exemple, à l'arrière du quad de Rice, dans une poursuite sauvage, ou alors nous faire vivre quelques moments pas forcément très joyeux dans une prison mexicaine régie par les gangs, ou encore nous faire vivre une petite scène de bagarre dans un bar de bikers qui est tout à fait bien rendu, on préférerait ne pas y être. Et quand ils dégustent un peu de ce miel sauvage, vous n'avez qu'une seule envie, du miel sauvage qu'il y a évidemment dans sa région, vous n'avez qu'une seule envie, c'est vous précipiter sur votre pot de miel préféré et d'en avaler une cuillère. Oui, si vous aimez le miel, évidemment.
En évitant les abeilles et les ours.
Exactement.
Ce qui est plus rare dans nos
régions, c'est quand même plus facile. Voilà. C'est donc un premier roman, le roman de James McLaughlin, et c'est un grand roman des grands espaces et des petites vilainies. Pour conclure, je ne saurais trop vous conseiller, après ou pendant la lecture, ou même avant de lire, d'aller faire un tour sur le site de James McLaughlin et surtout sur son blog photo pour voir, y a pas mal d'illustrations de ce roman et d'autres, c'est un excellent photographe, ça s'appelle le James McLaughlin Photo Shelter, vous cherchez ça sur Google, Yahoo, ou même Duck2Go et vous aurez bien, vous trouverez facilement.
Donc on retiendra qu'apparemment il crée des images splendides et...
Voilà.
Et très documenté.
Et on sent qu'il a utilisé ces images pour écrire son roman.
Je parie que tu vas nous illustrer ça d'un morceau de musique fort à propos.
Exactement. On va écouter, puisqu'on parlait des Blue Ridge Mountains tout à l'heure, dans l'extrait que j'ai lu, et c'est exactement là où ça se passe, et ben on va écouter les Blue Ridge Mountain Blues par les Blue Ridge Rangers. Et les Blue Ridge Rangers, en fait, c'est le premier album solo de John Fogerty, qui est paru en 1973, après la séparation de Creedence Clearwater Revival en 1972. Et là, c'est un album solo, et pour de bon, c'est un album solo, parce que John Fogerty joue de tous les instruments. Blue Ridge Mountain Blues, un vieux traditionnel.
Behind. snowy white. I see a window with a light. I seem to hear them both beside. Where is my wandering boy tonight? I got the Blue Ridge Mountain blues, and I stand right here to say, every day I'm counting till I climb that mountain in my Blue Ridge for Hawaii.
Donc après John Fogerty, tu vas nous parler d'un roman d'Anne Lorcan.
Oui, c'est le dernier roman sorti aux éditions Métayer de cette talentueuse auteure.
Et un roman dont le titre que tu vas nous donner incessamment dira forcément quelque chose à nos auditeurs.
Oui, parce que ce roman s'appelle « Richesse oblige ». Vous vous souviendrez sûrement d'un film de Robert Hammer. En fait, le nom du réalisateur, je l'avais oublié, vous l'aurez certainement oublié, mais « Noblesse oblige ». Je ne vous rappellerai pas l'histoire, un Alec Guinness au meilleur de sa forme.
Qui joue 8 rôles.
Qui joue plein de rôles à la fois. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais l'auteur, Anne Lorcan, va donc s'inspirer très librement du scénario de ce film.
Et donc, on retrouve le personnage d'Alec Guinness.
Mais non, on ne va pas retrouver Alec Guinness, mais plutôt une personnage principale qui s'appelle Blanche. Blanche de Rigny. Et Blanche, c'est le vilain petit canard de sa famille. En effet, après avoir fait plein de bêtises, elle a eu un accident de voiture dans l'île où elle vivait à ce moment-là. Et elle est handicapée à vie, elle est appareillée pour marcher. Heureusement, en rééducation, elle a rencontré Hildegarde. Vous voyez des prénoms très vieille France, hein, Blanche, Hildegarde. Grâce à cette amie, son âme sœur, comme le dit Anne Lorcan, cette amie qui est atteinte d'une maladie génétique rare, eh bien Blanche, elle a réussi à surmonter tout ça. Et maintenant, elle travaille, elle élève sa fille, elle râle et elle ronchonne à tout va.
Ça.
Et à elles trois, elles forment une belle famille. Elles supportent ensemble leur vie d'handicapée, aussi bien Blanche que Hildegarde. Et elles luttent, chacune de leur côté, pour des causes plutôt justes et même très très intéressantes. Il y a aussi le père de Blanche, qu'elle doit supporter lorsqu'elle retourne sur l'île.
Et donc, c'est sur cette île qu'il y a une autre famille de Rigny ?
Non, alors ça, c'est... Enfin, évidemment, on va faire des allers-retours entre l'île et le continent, mais il y a effectivement une autre famille de Rigny, et on va faire des allers-retours avec un passé au XIXe siècle, et cette famille de Rigny, des Rigny, c'était des nobles, évidemment, vu la particule, et des riches. On fait leur connaissance en fin du 19e siècle, en 1870, et c'est une famille suffisamment riche pour acheter un remplacement militaire.
Qu'est-ce que c'est, ce remplacement militaire ? Ça me dit quelque chose pour...
Oui, je pense que beaucoup...
pour pendant la guerre du Vietnam, mais là, déjà à l'époque.
Oh oui, mais c'est une très vieille, je dirais, tradition française, si on peut dire, heureusement disparue, puisque à cette époque, au 19e siècle, ceux qui étaient enrôlés dans l'armée l'étaient par tirage au sort. Mais évidemment, si tu avais suffisamment d'argent, tu pouvais t'en faire remplacer, d'où le terme de remplacement militaire.
Ah bah tiens, on aurait pu remettre du coup une autre chanson de Fogerty qui s'appelle Fortunate Son, qui raconte exactement cette histoire-là, mais évidemment pas pour la guerre du Vietnam.
Oui, bah là, ce sera donc c'était la guerre de 1870. Et comme l'explique le père Casimir, c'est le père, le patriarche de la famille riche, ce remplacement militaire, je cite, il fait tomber l'argent des mains de ceux qui en possèdent, dans celles vides de ceux qui n'en ont pas, pour au bout du compte donner à l'armée un bon soldat au lieu d'un mauvais. Vous remarquez l'argumentaire.
La perfidie.
Oui, et l'hypocrisie, et ça il va y en avoir plein. Ainsi, le fils de Casimir, Auguste, va échapper à la conscription militaire et la famille va envoyer à la boucherie Bréval Borquelin, un pêcheur qui quittera à cette époque l'île, la même que l'île de Blanche, et qui va arriver sur le continent, et évidemment aussi à la guerre. Mais, alternativement, on revient au XXIe siècle, et Blanche, qui retourne régulièrement sur l'île pour supporter son paternel, va fouiller dans les papiers, elle se demande, et elle va prendre conscience que les deux familles de Rigny sont liées, sont finalement de la même famille, et qu'elle est une des dernières héritières, non pas de cette pauvre lignée insulaire, mais de l'autre, plus illustre, les Dorigny, et évidemment richissime. Richissime pourquoi ? Je recite Anne Lorker. Une fois leur fortune lancée au XIXe siècle, la dynamique capitaliste a fait comme une boule de neige. Plus la taille de leur patrimoine était importante, plus ils amassaient d'argent lorsqu'ils le faisaient rouler sur des marchés financiers. En gros, de génération en génération, ils se sont enrichis. Mais il n'y a pas que l'argent qui a augmenté, les salauds ont aussi pullulé dans la famille. Alors, Blanche, qui a certainement un nom prédestiné, elle décide de faire une grande lessive et de débarrasser la planète de quelques malfaisants.
Bon, en même temps, le nom prédestiné, quand c'est l'auteur qui l'a choisi, c'est plus facile.
Voilà. Et évidemment, vous commencez à comprendre le titre et l'analogie avec le film.
Et est-ce que c'est aussi drôle ou...
Ah oui, c'est largement aussi...
De toute façon, généralement, Anne Lorker, c'est...
C'est toujours assez déjanté, enfin, d'un humour très caustique, mais c'est très drôle. D'ailleurs, dès la première ligne du roman, on éclate de rire par un survêtement improbable. Et ça va continuer tout au long de cette histoire quand on va suivre Blanche et Hildegarde. Ces deux silhouettes improbables qui tentent de se dépêtrer de leur petite existence et aussi mener à leur manière et de bien belle manière leur combat. Alternativement, le ton du récit se fait plus sérieux, plus sombre quand on est en 1870, dans le salon des Derigny ou bien dans cette terre isolée, désolée, qu'est cette île. Je ne sais pas le nom de cette île, hein. On pense que c'est une île bretonne, mais on l'appelle l'île dans le livre, cette île ouvrieuse, miséreuse. On sait très bien que la lutte des classes, elle a commencé au XIXe siècle, avec l'industrialisation, l'avènement du capitalisme. Enfin, ça faisait longtemps qu'il courait déjà dans les terres médiévales, sans rien asséner, sans démontrer, au détour d'un dialogue, dans la restitution d'une situation. La fresque sociale est là, constante, et Anne Lorker l'a décrit avec beaucoup, beaucoup de finesse. Par exemple, dans les propos du vieux Casimir au détour d'un repas, quand il s'adresse à son fils. Oui, parce que son fils, Auguste, il est de gauche. Enfin, il a une fibre sociale. Donc, Casimir s'adresse à lui. Mais enfin, Auguste, la véritable grandeur du peuple est dans sa foi en Dieu ou dans son ignorance, dans le sacrifice spontané de son existence à notre bien-vivre. Vouloir y mettre fin, leur apprendre à lire et à raisonner reviendrait à scier la branche sur laquelle tu es assis. Mais pourquoi veux-tu consacrer ta vie à une chose pareille ? Vous voyez un petit peu le cynisme. Dans cette fable grinçante, derrière la comédie, Anne Lorker montre que les conditions au XXIe siècle n'ont finalement pas vraiment changé. Loin de là. Je finis par une dernière citation. D'abord, le chaos social. Ensuite, un régime autoritaire que la population appellerait de ses voeux pour maintenir l'ordre. Et puis, qui sait, la guerre. Il suffisait d'avoir lu Balzac, Zola ou Maupassant pour ressentir dans sa chair que ce début de XXIe siècle prenait des airs de XIXe. Et à l'heure actuelle, on a beau avoir les remplaçants de Balzac, Zola et Maupassant, il semble bien que ce soit quand même les auteurs de romans noirs qui soient en quelque sorte nos lanceurs d'alerte. Parmi ceux-ci, Anne Lorker en est une des plus brillantes et je vous recommande fortement la lecture de ce très beau Richesse oblige qui paraît, je crois, demain chez Métayer dans la collection Suite Noire. Et on se retrouve dans la deuxième partie d'émission.